des machines. Vous savez que dans le découpage un peu programmatique qui a été pensé par nos interlocuteurs, on a quatre grands thèmes algorithmiques qu'on a vus ce matin, langage de programmation qu'on verra cet après-midi avec Gilles Lewek, machine et programme. Voilà, donc la parole à M. Cohen, que je remercie.
Merci à vous. Vous m'entendez, c'est bon? C'est pas trop fort? Ok, donc effectivement, le thème de cette présentation est un peu plus technologique, un peu plus proche de considérations physiques. Comment on construit des machines? Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à s'en servir? Et on va voir les liens entre la science informatique, qui est la plus proche des maths, et plutôt la science de la construction des ordinateurs. Donc c'est un petit peu à cheval entre les deux que je vais essayer de parler. Donc ça sera positionné de manière un peu moins... je ne sais pas si ça sera moins didactique, mais en tout cas ça sera moins concret, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de construire quelque chose que vous pouvez appréhender dans sa totalité, mais plutôt vous donner des pistes pour comprendre les machines qu'on utilise, vers où on va, quels sont les problèmes intéressants à apprendre et à comprendre. Donc oui, je suis basé à l'INRIA-Saclay, à l'Université Paris-Sud, et je travaille dans mon sujet de recherche, c'est plutôt le calcul parallèle, la programmation, les langages de programmation parallèles pour le calcul à haute performance. Et donc je reviendrai notamment là-dessus. Donc j'ai commencé par changer le titre en fait, parce que le vocabulaire machine me paraissait pas très clair. Ce dont il s'agit dans la formation et aujourd'hui, c'est plutôt des systèmes de calcul dans leur ensemble. Donc c'est la machine, donc le matériel, mais aussi les couches logicielles élémentaires qui permettent de s'en servir, de ce qu'on appelle souvent le système d'exploitation, les compilateurs, des mots que vous avez peut-être déjà entendus, et je vais essayer de préciser ça. Donc on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est qu'un système de calcul, en donnant quelques exemples, en partant très rapidement sur l'historique, parce qu'on est censé parler des machines d'aujourd'hui et du futur, et pas du passé, et comprendre quelques principes fondamentaux. Donc le sujet dont je vous parle aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une science, est-ce que c'est de l'ingénierie au sens technique de construction, méthodologie de construction, ça dépend. Il y a des parties qui sont plus dans chacun des domaines, et souvent dans les universités américaines en particulier, il y a souvent une dichotomie assez claire en tout cas au niveau administratif, entre computer engineering, donc la science de la construction des ordinateurs, et computer science. Donc là, j'essaye pas forcément d'opposer les deux. Au contraire, je pense que ça fait partie vraiment de la formation de montrer qu'on peut pas faire l'un sans l'autre. Enfin, on serait pas arrivé aujourd'hui à ce qu'on a en informatique sans la partie plus mathématique et la partie plus construction. Et donc une bonne analogie de ça, c'est Edgar Dijkstra, qui est l'un des plus grands informaticiens de tous les temps courts de l'informatique, qui a eu le prix Turing dans les années 70, qui était assez provocateur, souvent d'ailleurs assez parfois mal vu dans ses déclarations à l'emporte-pièce, et qui avait dit que l'informatique n'a pas plus à voir avec les ordinateurs que l'astronomie a à voir avec les télescopes. Donc en fait, c'est à comprendre dans les deux sens. Donc il n'y aurait pas d'astronomie vraiment avancée sans télescope. On en serait encore à parler des horoscopes, des choses comme ça. Donc il faut savoir de quoi on parle, il faut comprendre ce qu'on manipule, ce qu'on étudie. Et donc la science de la construction des télescopes, ou l'ingénierie des télescopes, a évidemment coévolué avec l'astronomie. Donc de temps en temps, je vais essayer de reprendre ce parallèle dans ma présentation. Mais je vais quand même parler plus de télescopes que d'astronomie. Enfin, d'ordinateur, vous avez compris. Je voudrais surtout pas donner l'impression que je cherche à opposer les deux. Les constructeurs de télescopes, ils parlent aux astronomes, d'abord parce qu'ils ont besoin d'argent pour construire leur télescope. Et donc il doit y avoir une motivation pour ça. Donc voilà un exemple de système de calcul. Donc là, ce qu'on voit, c'est la machine, mais ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est plus ce qui tourne dessus, c'est plus l'aspect logiciel. Et donc c'est un bout de la première machine pétaflopique, comme on dirait en français moderne. Donc la première machine qui est capable d'exécuter 10 puissance 15 opérations par seconde. Alors opération, dans un sens plus précis que ce que disait François tout à l'heure, c'est opération de calcul numérique sur des décimaux qu'on appelle les nombres à virgule flottante en informatique. Donc 10 puissance 15, ça fait quand même beaucoup. Et on est encore assez loin de ce qu'on aimerait avoir pour plein d'applications de simulation, par exemple, du monde physique. Donc c'est une course sans fin. On a toujours besoin de machines qui calculent plus vite. Et si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, et ben, c'est que vous n'avez pas assez d'imagination. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui aura envie de faire plus, plus précis, plus longtemps, plus rapidement, pardon, avec une machine plus puissante. Donc cette machine est aussi intéressante, et je reviendrai dessus par la suite, parce qu'elle est ce qu'on appelle hétérogène. Donc elle contient deux types de processeurs. Je vous expliquerai un peu mieux ce que c'est qu'un processeur, mais enfin, vous en avez déjà une idée intuitive. Elle contient des processeurs qui sont quasiment identiques à ce que vous avez dans vos PC, donc des Opteron d'AMD, et puis des processeurs qui sont exactement les mêmes que ceux que vous avez dans la PlayStation 3, si vous avez des enfants qui jouent, ou vous-même, je ne sais pas. Donc c'est le processeur Cell d'IBM. Donc c'est des choses qui n'ont rien à voir a priori, et c'est très sérieux, hein. Il s'agit quand même de dizaines de millions de dollars pour construire cette machine. Et on utilise deux types de machines qui n'ont rien à voir, en fait, qui ont, du point de vue physique, des méthodes de calcul assez différentes. Et il y a des très bonnes raisons pour ça, et on essaiera de comprendre pourquoi. Et en particulier, c'est une question de prix. Pour arriver à atteindre le pétaflop, donc c'était il y a déjà 3 ans, 2 ans et demi, avec un système hétérogène, on y arrive plus facilement. Donc d'autres exemples, un système de calcul, ça peut être un entrepôt de données. Donc si vous avez un site web, des photos de famille ou je ne sais trop quoi sur quelque part, vous savez généralement pas où. D'ailleurs, il vaut mieux pas, parce que sinon ça voudrait dire qu'elles sont pas en sécurité. Donc c'est un système d'hébergement de données avec beaucoup de disques durs, beaucoup de machines, beaucoup de câblage pour relier ça au réseau. Il y a une notion qu'on appelle la virtualisation, qui est très très en vogue actuellement dans l'industrie des services informatiques. Donc l'idée, c'est d'avoir une même machine partagée entre plusieurs utilisateurs, plusieurs entreprises par exemple, qui mutualisent leur site web sur une même machine, ou leur service de paiement, de facturation, etc. sur une même machine. On appelle ça consolider dans le jargon des services informatiques. Donc ça évite de payer les factures d'électricité, de matériel plein pot, on peut partager les frais. Et tout en donnant l'impression qu'on a la machine pour soi tout seul. Donc c'est des choses qui sont assez complexes et qui sont évidemment intéressantes d'un point de vue économique, mais d'un point de vue informatique qui ne sont pas faciles à concevoir. Il y a un aspect très intéressant dans ce domaine des services de réseau ou de données, c'est le problème de la puissance thermique ou de la puissance électrique. Donc là, c'est sous la droite, je vous ai mis une image un peu aberrante, c'est des bricoleurs qui ont mis un réfrigérateur à azote liquide sur le radiateur de leur processeur pour être capable de gagner quelques hertz en fréquence d'horloge. Donc c'est une blague, mais évidemment, sérieusement, il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de limitations technologiques qui sont liées à la puissance thermique dissipée par les processeurs, et je reviendrai également là-dessus. Un autre exemple de système de calcul, c'est des choses que généralement vous ne voyez pas du tout comme des ordinateurs. Pour vous, ce n'est pas des machines, ça a une fonction. Donc c'est une télévision, aux définitions. Bon, je fais de la pub pour un fournisseur d'accès à Internet, mais donc c'est un système d'accès à Internet, par exemple. C'est une boîte qui vous donne l'accès au réseau par la DSL, par le téléphone, qui aussi met à jour qui met à disposition des vidéos, etc. Donc tout ça, c'est des ordinateurs qui sont aussi compliqués, voire parfois plus, que votre PC. Les systèmes mobiles, donc des téléphones, on appelle ça des smartphones en anglais. C'est de plus en plus à la mode. D'ici quelques années, il y en aura sans doute plus que des téléphones qui ne font que téléphoner. Donc ça fait tout un tas d'autres choses qui ne sont pas forcément utiles. Mais c'est des ordinateurs très, très complexes. Encore une fois, parfois même plus complexes que votre PC, pour des raisons d'optimisation. Donc c'est des choses qui essayent d'économiser l'énergie au maximum, de faire la même chose avec moins de ressources. Donc ça pose plein de problèmes intéressants, dans le domaine, encore une fois, plus technologique, mais aussi des problèmes d'optimisation, des problèmes d'algorithmique, des problèmes de langage de programmation, comment on va faire pour manipuler des ordinateurs de ce genre. Juste une petite remarque sur ces systèmes mobiles. Historiquement, on a toujours cette tendance en informatique, c'est qu'on part d'un domaine qui n'est pas très numérisé, qui n'est pas très électronique, et puis petit à petit, il y a de plus en plus d'intelligence qui va rentrer dedans. Donc là, pour l'instant, c'est les téléphones, mais bientôt, ça sera les voitures. Bientôt, on se demandera comment c'est possible qu'on ait pu, pendant un siècle, conduire des voitures qui ne savaient pas elles-mêmes qu'elles arrivaient à un stop, qui ne savaient pas elles-mêmes qu'il y avait du verglas, etc. Donc ça, le verglas, ça commence déjà à marcher depuis un bout de temps. Vous avez ce qu'on appelle les ordinateurs de bord, je ne sais trop quoi. C'est vraiment généralement... pour le coup, le mot ordinateur n'est pas forcément très approprié dans ce cas-là. Mais quand les voitures vont commencer à discuter entre elles pour savoir qu'elles arrivent à un croisement, pour éviter les bouchons, etc., toutes seules, il faudra s'adapter. Et malheureusement, l'informatique, c'est un petit peu à double tranchant. Donc il y a l'aspect automatisé des tâches répétitives, sécurité, etc. Il y a plein de choses intéressantes à en tirer. Mais il y a aussi la notion de bug, la notion de complexité, dont vous avez déjà parlé et je pense que sur laquelle Gilles Dowek reviendra cet après-midi. Arriver à manipuler ou à programmer, dans le cas de ce qui nous concerne aujourd'hui, les ordinateurs, c'est de plus en plus complexe si vous leur demandez de faire plus de choses. Et donc là, c'est une analogie de Bjarne Stroustrup, qui est l'une des personnes les plus en vue dans le domaine des langages de programmation, qui a inventé le langage C++. Et donc l'idée, c'est effectivement, les téléphones deviennent aussi complexes que les machines. Donc malheureusement, le monde ne va pas dans le sens de la simplification, mais c'est au contraire les choses qui sont simples qui deviennent compliquées. Et donc il y a une prévision qui est en 2011, normalement il y aura plus d'ordiphones, je crois on dit en français, de smartphones vendus que de PC. Donc c'est complètement, vraiment, c'est ancienne mode, ça va disparaître du paysage. Donc justement, essayons de comprendre d'où on vient et très rapidement, et puis de quoi on parle, plus techniquement, concrètement. Donc historiquement, on vient d'une abstraction logique, enfin il y en a eu plusieurs, mais disons que la première abstraction qu'on peut considérer d'universel, c'est-à-dire un modèle mathématique qui décrit ce que c'est qu'un ordinateur idéalisé, c'est ce qu'on appelle la machine de Turing, donc par Alan Turing, dans les années 30, et qui porte le nom de machine, mais qui est entièrement sur papier. Hein, donc c'est juste un mécanisme mathématique de transition, d'état, pour décrire formellement ce qui se passe lors d'un calcul, et puis pour notamment être capable de parler d'universalité, c'est-à-dire la possibilité de résoudre n'importe quel problème calculable de manière automatique. Et donc ça, évidemment, ça a donné envie à des gens de construire une machine de Turing, une vraie, qui marche. Donc les premières choses qui s'en approchent, c'est ce qu'on appelle les calculateurs électroniques ou électromécaniques. C'était très utilisé pour calculer des tables de logarithmes, pour faire de la balistique pendant la guerre. Donc je passe vite. Hein. En particulier le Colossus, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'était la machine qui servait à l'équipe de cryptanalyse dont faisait partie Turing pour casser les codes Enigma de l'armée allemande, enfin de la marine allemande. Le premier ordinateur qu'on peut appeler une véritable machine de Turing s'appelle l'ENIAC. Donc, il a été fabriqué, ça a pris un certain temps, mais il a fini par émerger en 1945. Il était assez bizarre, calculé en base 10, donc ça paraît peut-être intuitif, mais surtout pas pour de la mécanique ou de l'électronique. Il était entièrement électronique pour le coup. Sauf le programme. Donc c'était quelque chose qu'on ne conçoit plus forcément maintenant, mais le programme de cet ordinateur, c'était encore quelque chose d'externe. Ça ne faisait pas partie des données d'ordinateur. C'était quelque chose où il fallait un opérateur, une opératrice, qui vienne prendre ses petits doigts, ses mains, et brancher des câbles, comme un terminal téléphonique, si vous voulez, des années 60. Donc il fallait connecter, faire les connexions à la main en branchant des prises et des interrupteurs. Et donc une évolution, juste j'ai zappé ça, il y a une évolution fondamentale qui vient après ça, dont je parlerai après, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a aujourd'hui dans nos machines. Donc une évolution plus, on va dire, commerciale, l'évolution de la technologie a fait qu'assez rapidement on a pu, enfin, en une vingtaine d'années, construire des circuits intégrés à grande échelle. Donc on a vraiment augmenté la capacité de calcul et aussi la vitesse de calcul des ordinateurs, et on a pu commencer à parler de compatibilité, donc dire qu'on a une famille d'ordinateurs, de réduire les coûts, de faire de la production en masse, etc., en particulier avec le système 360 d'IBM, qui est encore utilisé dans certaines variantes, dans les banques par exemple, parce qu'il est simple et robuste. Donc c'était ce qu'on appelle le système d'exploitation, c'est-à-dire les couches logicielles qui sont utilisées pour interagir avec la machine, étaient programmées entièrement dans le langage de la machine lui-même. Donc on est encore très proche des interrupteurs et des câbles. Ça se fait avec un clavier, mais ça reste vraiment, il n'y a aucune abstraction. On décrit chaque étape de la machine au niveau des opérations les plus élémentaires. Je reviendrai là-dessus par la suite. Mais c'est quelque chose d'extrêmement primitif en termes de conception logicielle. Je vais passer vite sur la partie plus logicielle. Donc il y a en parallèle avec les machines, il y a l'évolution de ce qu'on appelle le système d'exploitation, en particulier vous connaissez le système Unix, qui a donné naissance à énormément de systèmes d'exploitation modernes. Donc ça a été inventé en à la fin des années 60, ça a été réécrit dans un langage de programmation qui a été inventé exprès pour programmer Unix, qui s'appelle le langage C, dont vous avez entendu parler, en 1973. Donc ça a été fait au Bell Labs. Pardon, j'ai marqué MIT, mais ce n'est pas du tout MIT, ça a été fait au Bell Labs. Donc il y a un laboratoire, on va dire, industriel, mais quand même semi-académique, très connu sur la côte ouest, de la côte est. Pardon. Les systèmes de fenêtrage, ce n'est pas du tout ni Apple, ni Microsoft, ni quoi que ce soit qui ont inventé ça. Ça a été fait, encore une fois, dans un laboratoire industriel qui s'appelle le Xerox PARC, en 1974, donc c'est très ancien. Avec des fenêtres, des souris, des menus, etc. Un bon nombre des concepts que vous utilisez pour interagir avec la machine ont été inventés avec cette machine qui s'appelait l'Alto. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les sources en ligne, il y a plein d'informations et d'anecdotes intéressantes. En 81, il y a la catastrophe malheureusement qui est arrivée. Il y a IBM qui a inventé le PC compatible. Donc toujours dans la logique, on veut faire plus avec moins de matériel et moins cher. Et en particulier, comme IBM ne croyait pas vraiment à son projet, ils ont décidé de diffuser un standard pour le matériel et de faire le logiciel par quelqu'un d'autre, en l'occurrence Microsoft, ce qui a donné lieu évidemment à une explosion du marché. Donc il y a plein de gens qui sont intéressés à l'informatique cette fois-ci, qui maintenant enfin avaient les moyens d'acheter des machines. Ça a créé un écosystème très riche. Malheureusement, c'était ni fait ni à faire. C'est-à-dire que c'était une énorme régression en matière de technologie par rapport à ce qui existait avant. C'est normal, hein, on voulait faire quelque chose de pas cher et de compatible. Donc c'était vraiment le plus petit dénominateur commun. Et donc il a fallu attendre 15 ans pour qu'il y ait un système d'exploitation à peu près fiable, à peu près utilisable par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, écrire des programmes qui tournent sur cette machine. Donc à l'époque ça s'appelait Windows NT pour Microsoft, et il y avait également Linux, la version 2 de Linux qui est sortie en même temps. Et c'est aussi responsable de ce qu'on appelle la compatibilité binaire. L'idée, c'est que vous avez un programme qui a été écrit pour le processeur qui a équipé cette machine en 1981. Il est censé marcher encore aujourd'hui. Hein, donc vous n'avez pas le source du programme, vous n'avez pas le code qui a été écrit par les vrais programmeurs humains. Celui-là, il peut être perdu depuis longtemps. Par contre, ce code a été traduit dans le langage de la machine, donc en étape élémentaire de calcul pour le processeur de la machine. Et la règle absolue qui a été édictée, c'est que, bon, essentiellement par le marché en fait, hein, c'est que ce code binaire, donc plus personne ne comprend ce qu'il fait, la machine est censée le comprendre. Et surtout ne pas changer les règles du jeu, sinon malheureusement on perd cette compatibilité. Donc c'est bien pratique, ça a l'air sympathique au premier abord, puisque ça veut dire en gros, dans le monde physique, si vous avez une voiture qui est conçue pour fonctionner sur les routes de 1981, elle marche encore sur les routes de 2010. Malheureusement, les routes de 1981 en matière d'informatique, elles étaient vraiment mal conçues au départ et primitives. C'est un petit peu comme si on obligeait les voitures à être conçues pour fonctionner sur une voie romaine avec des pavés et une jauge dédiée aux chars à bœufs. Donc c'est un petit peu d'ailleurs ce qui se passe encore pour les trains, par exemple. La taille des trains en largeur est définie par rapport à l'espacement entre les roues des chars du Moyen-Âge, mais c'est un peu dommage de se donner des carcans de ce genre quand on construit une science et une technologie toute nouvelle. Donc je parle aussi un tout petit peu de sociologie et de politique de l'informatique. Donc je pense qu'on peut difficilement dissocier l'évolution des systèmes de calcul, et en particulier des systèmes d'exploitation, de la manière de distribuer les applications, de distribuer les logiciels, et de comprendre comment ils sont produits, par qui, à quel prix, etc. Et donc en particulier, un mouvement qui est très important et qui maintenant est absolument incontournable en informatique du logiciel, c'est ce qu'on appelle le logiciel libre. Donc c'est le fait que vous puissiez récupérer des programmes écrits par d'autres, les utiliser librement, les modifier, les étudier, les redistribuer. C'est quelque chose qui ne tombait pas sous le sens dans un monde où les industriels assez légitimement cherchaient à protéger au maximum leurs revenus. Et donc, comme le droit leur permettait de le faire, la meilleure manière de protéger ces revenus, c'est d'empêcher les gens de toucher à leur gagne-pain, donc en particulier au code de leur programme, au code source de leur programme. Donc ça a malheureusement pas mal d'effets pervers. Et Richard Stallman a été l'un des, pas le seul, hein, mais l'un des... l'une des personnalités les plus efficaces pour promouvoir cette notion de logiciel libre. Vous avez sans doute encore plus entendu parler de Linux, qui est en fait actuellement un composant du système GNU qu'a conçu Richard Stallman, et puis donc qu'a initié Richard Stallman. Donc Linux, c'est ce qu'on appelle le noyau d'un système d'exploitation. C'est juste la partie que personne ne veut voir, c'est la partie qui s'occupe véritablement de l'interface entre le matériel et donc la gestion des périphériques, qu'est-ce qui se passe quand vous branchez une clé USB sur votre machine, et puis le fait que vous ayez tout d'un coup un fichier qui apparaît, il y a une icône qui apparaît, on clique dessus et ça ouvre un fichier. Donc le lien entre les deux, c'est vraiment le noyau qui s'en occupe, et c'est un étudiant finlandais à l'origine qui a démarré ça en 91, qui est devenu maintenant un business à plus de 30 milliards de dollars, que ce soit dans la vente de systèmes complets autour de Linux ou de services autour de Linux. Dans le monde et qui tourne, donc qui fait tourner des machines, qui sert à faire tourner des machines, d'un téléphone jusqu'à un super ordinateur avec des milliers de cœurs de processeurs ou des milliers de processeurs ou des milliers d'ordinateurs en réseau. Donc, par exemple, l'ordinateur le plus rapide actuellement, qui s'appelle BlueJean Pi, ça devait être encore vrai jusqu'à... Non, c'est plus vrai, je crois. Enfin bon, qui était encore vrai en janvier, je crois. Contient 884 000 et quelques cœurs de processeurs, on va voir ce que c'est, et tourne sous Linux. Donc voilà, je passe là-dessus, c'est pas très intéressant. Donc comment ça marche? Essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette évolution, et en particulier comment on en est venu d'un challenge dans les années 40 où on savait pas vraiment comment utiliser le monde physique pour matérialiser cette machine de Turing, à quelque chose qui paraît tomber sous le sens aujourd'hui, où on demande à un ordinateur de faire absolument tout, et petit à petit de remplacer toutes les tâches automatisables dans le monde. Donc l'idée de base, en fait, que j'ai zappé tout à l'heure, c'est que la notion de programme, il ne faut surtout pas la voir comme un opérateur qui est en dehors de la machine et qui va brancher des câbles sur la machine pour créer des circuits spécifiques de calcul. Il faut vraiment comprendre le programme, et ça c'était une idée d'un mathématicien des années 40, donc John von Neumann, comme des données. Un programme, c'est simplement, vous l'avez vu sans doute dans le cours de la semaine dernière, c'est simplement une suite de bits qui a une interprétation particulière comme un système de transition. Donc ça va expliquer à la machine qui va exécuter ce programme, qui va interpréter ce programme, quelle est la suite d'opérations à faire, et qui va décrire de manière extrêmement formelle et précise l'algorithme à mettre en œuvre. D'accord ? Donc ça, c'était un progrès conceptuel qui n'était pas évident à l'époque. En tout cas, c'était pas évident que ça soit possible de le faire physiquement. Et il a fallu 4 ans entre le moment où John von Neumann a rencontré les créateurs de l'ENIAC, qui étaient messieurs Eckert et Mauchly, qui ont tout le monde connaît von Neumann, enfin plein de gens connaissent von Neumann, mais on connaît moins ces deux autres noms. Peut-être parce qu'ils ont des noms à coucher dehors, mais en l'occurrence, c'est vraiment les pères de des ordinateurs, en sens de la construction des machines. Et donc, ils se sont rencontrés en 1945, et il a fallu 4 ans pour arriver à fabriquer la première machine électronique capable d'exécuter un programme stocké dans ces données. Donc, il n'y a plus d'opérateur qui va brancher des câbles. Le programme fait partie des données. Si vous voulez changer le programme, il suffit de modifier la valeur des données qui codent ce programme. Et à partir de là, énormément de flexibilité, énormément de degrés de liberté s'ouvrent à la machine. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. On a un peu moins de temps, mais donc je suis obligé de survoler un peu plus pour raconter des choses plus intéressantes, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe, ce concept? Comment on matérialise ce concept de ce qu'on appelle le stored program, donc le programme stocké en mémoire? Et bien, en fait, l'idée de von Neumann était vraiment très simple, c'est de considérer qu'une machine, c'est 5 composants. Il y a d'abord une mémoire qui contient toutes les données sur lesquelles on travaille, donc toutes les valeurs, tous les entiers, les nombres à virgule flottantes, etc. Également le code du programme. Il y a une unité de calcul arithmétique et logique. Donc ça, c'est essentiellement des circuits qui vont servir à faire des additions, à faire des opérations booléennes, donc des et, des ou, de la négation logique, etc. Et ce circuit d'arithmétique et logique, il a ce qu'on appelle un accumulateur, c'est-à-dire une petite mémoire unique pour calculer, pour stocker, pour mémoriser une donnée. Donc il se souvient du dernier calcul qu'il a fait. Il sait que s'il a fait une addition, le résultat de l'addition, il le stocke dans l'accumulateur. S'il veut continuer à faire une deuxième addition, il va falloir chercher une donnée dans la mémoire, la brancher en entrée d'un circuit d'addition, mettre la valeur de l'accumulateur dans l'autre entrée de l'addition, on obtient un résultat qu'on stocke dans l'accumulateur. Donc on crée comme ça des chaînes de calcul en passant par l'accumulateur. Et si on n'a plus besoin de la donnée qui est dans l'accumulateur, on la range en mémoire quelque part. Donc il faut choisir un endroit en mémoire, la donnée qui était dans l'accumulateur, et puis on charge autre chose. D'accord ? Donc l'unité arithmétique et logique va aller lire et écrire en mémoire des données qui sont issues de calculs extrêmement simples. C'est juste une addition ou une opération logique. Logique dans le sens booléen, hein, c'est juste un non, un et, un ou, des choses comme ça. Tout ça, ça marche évidemment s'il y a un chef d'orchestre. Donc à gauche, l'unité de contrôle, c'est ce qu'on appelle un automate. Donc c'est quelque chose qui suit un programme préétabli, figé, donc qui n'est pas programmable en tant que tel, dont le rôle est spécialisé à la coordination de l'unité de calcul et de la mémoire. Donc ça va dire à l'unité de calcul, maintenant le programme veut que... Donc en fait ce que fait l'unité de contrôle, c'est de regarder la mémoire, de décoder les instructions qui sont stockées en mémoire. On verra un exemple tout à l'heure. Et si cette instruction dit c'est une addition, eh bien l'unité de contrôle comprend que c'est une addition, entre guillemets, dit à l'unité d'arithmétique et logique, je veux faire une addition, et lui dit éventuellement où stocker le résultat. Parce que s'il faut ranger le résultat en mémoire, par exemple, elle lui dit où le faire. Donc c'est un chef d'orchestre qui va suivre un programme qui lui est propre, préétabli. Donc c'est ce qu'on appelle un automate fini dans le jargon de informatique scientifique, on va dire. Donc il y a un modèle formel bien connu. Mais cet automate fini, il est capable d'aller interpréter un programme qui lui est complètement flexible. Donc vous pouvez écrire n'importe quoi dans la mémoire. Et l'automate fini va dérouler ce programme et exécuter ce que vous voulez. Donc s'il faut par exemple suivre un des algorithmes que François a exposé, la tâche de l'unité de contrôle, c'est simplement de dérouler les pas de cet algorithme. Il ne comprend pas l'algorithme lui-même, mais il sait passer d'un pas au suivant. Et il y a encore deux autres composants dans cette machine, c'est ce qu'on appelle les entrées et les sorties, input-output. Donc à un moment donné, il faut demander des données à un être humain par exemple, ou lire les données sur un support de stockage externe, ça peut être une carte perforée à l'époque, ou une bande magnétique, etc. Et puis il faut afficher le résultat quelque part, toujours sur un support de stockage, ou alors sur un écran, etc. Donc ça ne fait pas partie au sens strict du calcul, on n'est pas en train de parler de fonction mathématique, on n'est pas en train de dire je veux calculer une fonction, on est en train de dire je veux faire une entrée hors du monde formel du calcul, et je veux faire une sortie hors du monde formel du calcul. Hein, donc, il ne s'agit pas de faire return, comme dans un algorithme qu'on voyait tout à l'heure, où on va renvoyer une valeur qui sera la valeur de définition de la fonction. On est en train de dire, j'ai fait un calcul, donc j'ai terminé le calcul de ma fonction, mais j'ai besoin de décrire ce résultat pour que ça soit utilisable en dehors de la machine. On sort de la machine, si vous voulez. Donc surtout ne pas confondre l'entrée-sortie et le fait d'avoir des arguments de fonction et une valeur de retour de fonction. Ce n'est pas la même chose. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment faire réellement pour implémenter avec des transistors, avec des circuits électroniques, un mécanisme simple de calcul donc, qui suit ce modèle de von Neumann, je vous conseille un bouquin qui est vraiment très bien fait, qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, mais je pense que s'il y a suffisamment... J'ai convaincu les auteurs que c'était intéressant, on va dire, avec un collègue, parce qu'on a utilisé beaucoup ce livre en enseignement en France, mais pour l'instant, l'éditeur n'est pas convaincu qu'il y a encore un marché suffisant. Donc si c'est un best-seller international par ailleurs, il a déjà été traduit en espagnol, donc si vous êtes suffisamment nombreux à m'envoyer un mail, on pourra peut-être faire quelque chose. Donc c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il prend une approche qu'on appelle bottom-up, Donc il définit un processeur qui s'appelle Little Computer 3, il y a eu deux versions moins bien avant, et il part des bits, donc 0,1, et des portes logiques, donc les transistors pour simplifier, et il essaie de construire cet ordinateur, et aussi de construire le langage C, le langage de programmation C, qui est ce langage un petit peu bas niveau, mais bien pratique pour comprendre comment ça fonctionne vraiment, par rapport à des langages plus abstraits comme Camel par exemple. Et aussi des concepts de système d'exploitation élémentaire. Donc c'est vraiment fait par des gens qui sont d'excellents pédagogues, très réputés également en recherche, donc c'est très intéressant. Donc juste pour vous donner une idée, voilà ce que les étudiants sont censés faire. Donc ça s'adresse à des étudiants de premier cycle, hein, en première ou deuxième année universitaire, donc c'est assez facile de l'adapter pour un cursus de terminale, je pense. Il faudra probablement... malheureusement, il n'y a pas un trimestre entier pour faire ça. Mais bon, d'accord, donc visiblement, je ne sais pas de quoi je parle. Mais mon... Ok, donc j'ai rien dit. Je pense que ça peut être un problème intéressant à poser et pour lequel il peut exister une solution. Donc essentiellement, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc 5 unités de 5 concepts de base, la mémoire, l'unité de calcul arithmétique et logique, un chef d'orchestre qui contrôle des entrées et des sorties. Mais quand on ouvre la boîte, c'est un peu plus compliqué. Hein. Et c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi beaucoup plus formel. En fait, si on connaît le code qui est utilisé, la syntaxe graphique qui est utilisée sur cette image, que vous ne pouvez sans doute pas bien lire du fond, mais, ben, chaque fil correspond à vraiment un fil électrique ou plusieurs fils électriques en parallèle. Et il y a des boîtes qui correspondent à des additionneurs, des sélecteurs qui vont dire je prends sur le fil gauche ou je prends sur le fil droit, je rajoute des zéros à gauche de mes fils, des choses comme ça. Donc c'est des opérations très simples qui permettent de définir le comportement du processeur. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce que voit le processeur, ce que comprend le processeur. Donc il ne s'agit plus de câbles et de branchements, mais il s'agit quand même de quelque chose de très très primitif. À gauche, je vous ai listé toutes les instructions que connaît le processeur. Donc, le processeur, il sait faire ça c'est la vision, disons, lisible par un humain, qu'on appelle le langage d'assemblage, le langage assembleur. Donc il sait faire une addition, add, ou un et logique, and, entre deux opérandes, et puis il met le résultat dans une troisième opérande. Donc il sait prendre deux nombres, les additionner, et ranger le résultat quelque part. Il sait faire, avec une constante également, le im, ça veut dire immédiat, c'est une constante numérique, mais seulement si cette constante est comprise entre moins 16 et plus 15. Il ne sait pas ajouter 20 à une valeur quelconque, il sait ajouter 12 par exemple. Si vous voulez ajouter 20, il faut commencer par charger 20 dans ce qu'on appelle un registre, donc en mémoire quelque part, et ensuite il faut ajouter cette valeur à une autre valeur. Vous ne pouvez pas directement coder 20 dans l'instruction à donner à la machine, etc., etc. Donc vous pouvez lire en mémoire, écrire en mémoire. Les instructions BR, JMP, etc., ça veut dire jump ou branch, ça correspond aux étapes de décision dans l'algorithme. Donc est-ce que je vais là ou est-ce que je vais ailleurs? Donc en fonction du résultat d'un calcul précédent, on peut brancher, c'est-à-dire qu'on peut sauter à une des instructions du programme ou à une autre instruction du programme. Donc conditionnellement, on va faire des opérations. Et puis RET, qui veut dire, comme vous l'imaginez, return, qui renvoie la valeur de résultante. Donc ça fait des choses assez proches des algorithmes, si vous voulez, sauf que c'est complètement formel et c'est complètement primitif. Donc la seule chose que connaît le processeur quand il exécute ses instructions, et il ne connaît que ces instructions-là, il ne connaît pas d'autres, c'est des entiers, en l'occurrence pour le LC3, 16 bits. Donc vous pouvez coder des valeurs entre 0 et 65635, ou alors si c'est des nombres signés, entre moins 32768 et plus 32767. Je ne rentre pas dans le détail de la représentation des données, mais c'est très simple. Donc voilà ce que voit la machine, et en fait la machine elle voit même pas ces instructions là qui sont presque lisibles, elle voit ce qu'il y a à droite. Donc elle voit des 0 et des 1 groupés par ce qu'on appelle un mot de 16 bits, et chaque paquet de 16 bits code une instruction. Donc elle va dire j'ai envie de faire une addition d'abord, ça c'est la partie gauche, les 4 bits de gauche, ça veut dire je fais une addition ou je fais un accès mémoire ou je fais un branchement, et ensuite elle va dire quelles sont les cases mémoire qu'elle va utiliser. Ou quelles sont les constantes qui vont entrer en jeu dans le calcul. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais le principe est vraiment très simple. C'est le chef d'orchestre, donc le contrôleur du processeur, il va décoder ses bits, et en fonction des 0 et des 1, il va savoir s'il faut faire une addition, une opération, s'il faut faire un branchement, s'il faut faire un accès mémoire. Okay, donc ça, le but de ça, c'est vraiment de démystifier le, le fonctionnement. Hein. C'est vraiment des choses très, très, très simples. Et on construit à partir du bas, donc bottom-up. On construit les opérations un peu plus complexes à partir des opérations plus simples. Et quand on sait faire des opérations primitives comme ça, on peut penser à des langages de programmation plus abstraits, on peut penser à un système d'exploitation plus agréable à utiliser que juste rentrer un programme, etc. Donc ça, c'est bien sympathique, mais en fait, on aurait pu se dire, je peux m'arrêter là, finalement, ça, c'est formidable. Ça, c'est l'informatique, au sens l'ingénierie de l'informatique, la construction des ordinateurs. J'ai rien besoin d'autre. Et ça, ça suffit à construire la machine en vrai. Okay. Malheureusement, comme je vous le disais au début, il y a une énorme variété. On a envie de faire plein de choses avec les ordinateurs, et en particulier, on a envie d'aller plus vite. Hein, donc le premier microprocesseur, qui est complètement à gauche ici sur cette figure, qui s'appelle le 4004 d'Intel, donc c'est la première puce qui tient sur un petit carré de silicium, qui est un processeur complet, donc qui est capable de faire tout ce que je vous ai dit. Les cinq composants de l'architecture de von Neumann, elle comportait 2300 transistors. Donc un transistor, vous savez ce que c'est, un transistor c'est à peine plus compliqué. Et donc 2300 transistors, c'est pas grand chose, c'est vraiment presque rien. Et ça suffit à calculer sur des entiers de 4 bits à l'époque, pas 16, mais 4 bits seulement, donc vous pouvez coder des valeurs de 0 à 15, et à faire des programmes, enfin à créer des algorithmes. Donc on pourrait dire, ben voilà, c'est très bien. Malheureusement, les machines d'aujourd'hui, elles sont plutôt de l'ordre de 1 milliard de transistors, sur une puce, toujours la même taille, à peu près 1 cm carré. Et on peut se demander, mais à quoi ça sert? Pourquoi on a rajouté un facteur 1 million dans la densité, le nombre de transistors dont on va disposer pour faire des calculs? Et donc tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, c'est essayer de vous expliquer comment on s'en sert de tous ces transistors. Donc ça, c'est les gens des semi-conducteurs, c'est des physiciens, des gens des nanotechnologies qui se grattent la tête pour arriver à construire ces transistors pour qu'ils marchent encore, bien qu'ils soient nanométriques. Mais la question qui est plus intéressante pour moi, c'est qu'est-ce qu'on en fait, d'accord? Et puis comment on peut s'en servir de manière utile par rapport à ce que vous voyez dans l'informatique plus proche des mathématiques. Donc comment on écrit un programme, comment on accélère le traitement des calculs qui nous intéressent. Donc là, c'est cette courbe s'appelle la loi de Moore. Vous avez peut-être entendu parler de Gordon Moore, qui était le fondateur de la société Intel, qui avait prédit l'évolution dans le temps et également en coût. J'ai pas marqué les dollars correspondants de la technologie des semi-conducteurs et donc l'impact que ça aurait sur l'industrie informatique. À l'époque, il me semble qu'il avait prévu pour une quinzaine d'années. Ça a duré pendant plus de 40 ans. Là, on commence à en toucher vraiment les limites quand même. Je pense que d'ici 5 ans, ce sera un secret pour personne que la loi de Moore se ralentit, voire s'arrête. Donc on n'arrive plus avec la technologie actuelle à intégrer plus de transistors dans la même unité de surface et à en faire quelque chose. Mais bon, pour l'instant, supposons que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Il y a une question suffisamment complexe qui est déjà qu'est-ce qu'on fait de tous ces transistors? Oui, juste encore une dernière remarque. Je vous parlais d'usage varié de l'informatique. Vous pouvez regarder que cette courbe, c'est un petit peu un biais expérimental, mais plus on va vers le présent, plus la courbe s'ouvre. Hein, et puis c'est une échelle logarithmique en ordonnée. Ça veut dire qu'en fait, c'est intéressant d'avoir un processeur très très simple, relativement simple, comme le Atom d'Intel par exemple, tout comme un processeur beaucoup plus complexe, comme un processeur quadricore qui s'appelle Tukwila chez Intel. Et il y a des utilisations pour ces deux types de processeurs. Il y a encore des choses beaucoup plus simples que l'Atom. Qui calculent beaucoup moins vite, mais qui consomment beaucoup moins d'énergie, qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont très bien pour mettre dans des capteurs, par exemple, qu'on va attacher sur un oiseau pour savoir où il est, et puis pour de temps en temps envoyer un signal radio. On n'a pas envie de mettre un processeur qui consomme 100 watts pour l'attacher à une bague d'oiseau. Donc il y a de plus en plus un éventail d'applications de l'informatique qui s'élargit. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tous ces transistors? Donc ça fait 60 ans que l'informatique, au sens construction des ordinateurs, machine de Turing, physique, donc qui marche vraiment, existe. 65 ans ou 61 ans, ça dépend de quoi on parle. Disons que je vous explique pas tous ces mots-clés. Si vous lisez la presse informatique, vous avez entendu parler de cache et que c'est vachement mieux d'acheter un processeur qui a plus de cache qu'un processeur qui a moins de cache. Vous avez pu entendre parler de pipeline d'instructions. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de ce qui était en dessous. donc de prédicteur de branchement, d'exécution spéculative, de préchargement, d'exécution superscalaire, dans le désordre, dans l'ordre. Donc ça, c'est plein de mécanismes qui ont été inventés pour, en gros, tricher avec le modèle de Von Neumann. C'est de se dire, le modèle de Von Neumann, par exemple, un gros défaut qu'il a, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de stocker un résultat pendant un certain temps, il faut aller l'écrire en mémoire. Okay, on a juste un accumulateur qui stocke une valeur. Donc si on a besoin de sauvegarder un résultat pendant un certain temps, donc, dans l'algorithme, vous dites M égale, M reçoit le dernier maximum connu, et puis vous allez ranger ça quelque part. Bon, ben, écrire en mémoire ce résultat, ça prend du temps. Il va falloir typiquement sortir de la puce, envoyer un signal électrique qui va aller quelques centimètres plus loin sur votre carte d'ordinateur, et puis ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Ça peut se compter en centaines de nanosecondes, c'est très 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 lent. Par rapport à l'opération de comparaison, par exemple, du tri, qui, elle, va prendre une demi-nanoseconde. On a envie d'avoir des mémoires, ce qu'on appelle plus locales, ce que sont justement les registres ou les caches. Donc, c'est des mémoires qui vont être sur la puce, qui vont être plus rapides, mais beaucoup plus petites, c'est le prix à payer, qui permettent de garder proche des unités de calcul des données dont on a fréquemment besoin. C'est assez intuitif. Il y a évidemment plein d'algorithmes derrière. Qu'est-ce qu'il faut stocker proche des unités de calcul? Qu'est-ce qui va être utile bientôt? Qu'est-ce qui ne sera pas utile bientôt? Donc, généralement, le processeur ne comprend rien à ce que vous lui demandez de faire en termes de d'anticipation. Il n'est pas capable de prédire que vous avez un algorithme qui va faire ceci ou cela. Il voit juste cycle après cycle, étape après étape, les opérations à faire. Mais par contre, il est capable de faire des statistiques élémentaires. Donc, il est capable d'observer que dans le passé, vous aviez, par exemple, fréquemment utilisé une donnée avec une autre donnée. Ou alors que vous avez fréquemment suivi des étapes dans un même ordre. Ou que lorsqu'il y avait une condition et un test, soit on partait à gauche, soit on partait à droite, peut-être dans 99% des cas, vous partez à droite. Donc ça, c'est le genre de statistiques que le processeur, le contrôleur, le chef d'orchestre du processeur peut tenir à jour. Et donc, on rentre dans une logique de prédiction, où on va essayer d'utiliser le passé pour prédire l'avenir et arriver à anticiper, ben voilà ce qu'il faut mettre dans le cache. Ou alors, je suis capable à l'avance de savoir quelles instructions je vais exécuter, etc. Donc, on peut gagner du temps dans le modèle d'exécution. Mais l'idée de base, c'est toujours la même, c'est cycle après cycle, on exécute une instruction, on va la chercher en mémoire, on calcule ce qu'elle fait, on range le résultat en mémoire. Alors petit à petit, ça c'était des idées qui ont été formidables, qui ont gagné déjà des facteurs 100 en puissance de calcul, mais on arrive aux limites. Bon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a exploité toutes ces bonnes idées? Et donc d'ailleurs une bonne partie de l'histoire de l'architecture des ordinateurs, c'est une histoire de rendement décroissant. C'est-à-dire qu'il y a au départ quelqu'un dont on a retenu le nom généralement, qui a une idée très simple, mais il était le premier à l'avoir. Il a décrit cette idée concrètement, par exemple il a inventé cette histoire de cache. Il a fait un peu de statistiques, un peu de mesures pour dire bah oui, c'est vachement bien, il faut faire ça comme ça. Et puis après ça, il y a d'autres gens qui ont cherché à améliorer son idée. C'est un peu comme en physique, hein. On va chercher à préciser le nombre de décimales qu'on connaît sur la masse d'un quark. Mais petit à petit, à chaque fois, c'est de plus en plus dur, ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins intéressant quelque part. Donc on gagne de moins en moins par rapport aux constructions précédentes. Donc c'est vraiment ça l'histoire de l'architecture des ordinateurs. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un saut quantique, et on va dire, ben non, je vais aller dépasser ce mécanisme de cache, je vais inventer un autre mécanisme qui va aussi accélérer le calcul. Donc par exemple, l'exécution superscalaire, ça veut dire qu'au lieu d'exécuter une instruction à la fois, votre processeur il est capable d'aller lire à l'avance quelques instructions, et puis il est capable de voir lesquelles sont indépendantes. Donc il va se rendre compte, ah oui, vous voulez faire une addition et stocker le résultat quelque part, et puis vous voulez faire un et logique, mais à partir d'un résultat de données qui sont indépendantes de l'addition, donc des données que vous connaissez déjà. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'attendre la fin de l'addition pour commencer à faire le et logique. Vous pouvez faire les deux en parallèle. Vous pouvez donc donner à manger à plus de transistors. Vos transistors, ils sont là, au lieu d'attendre bêtement qu'on leur demande de travailler, vous pouvez avoir d'un côté un circuit qui sait faire des additions, de l'autre côté un circuit qui sait faire des et logiques, et puis si vous avez de la chance, vous avez au même instant à la fois une addition et un et logique que vous pouvez exécuter. Donc on commence à faire un peu de parallélisme, on commence à exécuter des choses indépendantes simultanément. Alors on peut aller plus loin, on peut le faire dans le désordre, etc. Et jusque-là, d'un point de vue programmeur, donc pour vous, par exemple, si vous voulez écrire des algorithmes dans un langage de programmation, vous n'en avez pas conscience. C'est vraiment complètement caché par les mécanismes internes au processeur. C'est dans le matériel que ça se passe. Bon, un petit peu dans le compilateur, on en parlera un peu après. Malheureusement, il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'encore une fois, ces mécanismes-là, ça marchait bien jusqu'à 2002 à peu près. Ça dépend si on, de quel côté on se place. Mais au bout d'un certain temps, on a de nouveau encore plus de transistors sous la main. On n'arrive plus à utiliser efficacement ces idées-là pour gagner en performance. Donc ce qui est apparu, c'est la notion de parallélisme à gros grain, ce qu'on appelle le parallélisme de Fred. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant réfléchir, non pas en termes... Si on veut continuer à utiliser les transistors pour aller plus vite, il va falloir calculer des bouts d'algorithmes indépendants. Donc ce n'est pas juste une addition ou un et logique. Il va falloir aller prendre, par exemple, une sous-routine, donc un morceau d'algorithme, une fonction qui calcule localement le minimum, par exemple, ou qui calcule la médiane, et vous allez utiliser cette médiane pour ensuite chercher un meilleur pivot dans le quicksort. Et bien, peut-être que le calcul de la médiane peut se faire en parallèle avec d'autres étapes du calcul. Donc il va falloir localiser ce qu'on appelle des threads, donc des fils d'exécution, qui peuvent eux-mêmes s'exécuter de manière indépendante. Et donc sont apparus les processeurs qu'on appelle multithread, ou bien les architectures multiprocesseurs, donc vous avez une machine avec plusieurs processeurs qui sont généralement identiques, mais qui vont se répartir le travail de ces bouts d'algorithmes indépendants. Et puis la notion de système sur puce, j'en parlerai après, c'est l'idée que on ne sait tellement pas quoi faire de tous ces transistors qu'au lieu d'avoir plusieurs puces sur la machine, on va rassembler tout ce qu'elles font dans un même circuit. C'est un peu complémentaire. Donc là, malheureusement, avec ces trois nouvelles idées, on est en train de casser le modèle de von Neumann. On est en train de se dire, finalement, on est arrivé aux limites. On n'arrive plus à raisonner en termes de séquences d'instructions qui sont contrôlées par un chef d'orchestre l'une après l'autre. Il faut vraiment exposer au programmeur, même au niveau de votre algorithme, il va falloir concevoir une modularisation en tâches indépendantes. Alors ça paraît, on peut se dire à ce stade-là, pourquoi pas. Finalement, c'était un cas particulier, les algorithmes pas à pas, les algorithmes séquentiels, on décompose dans des étapes successives. Pourquoi pas réfléchir en parallèle, et puis quand on fait des recettes de cuisine, dans les grands restaurants, il y a généralement un chef, et puis il y a des cuisiniers qui sont plus spécialisés, il y en a un qui fait la sauce, l'autre qui fait préchauffer le four, etc. Donc on sait faire de la cuisine en parallèle, pourquoi pas faire des programmes et des algorithmes parallèles, ça paraît naturel. Donc justement, il y a une petite difficulté dans les grands restaurants. D'accord ? Donc les chefs cuisiniers, des étudiants qui sont passés dans les grandes écoles de cuisine, ils savent faire ça. Si vous allez vous arranger vous-même le week-end avec vos copains pour faire la cuisine en parallèle, ça pourrait plus souvent poser des problèmes. Donc genre, il y en a qui cassent les œufs pendant qu'il fait la vaisselle, et donc on met de l'eau de vaisselle dans les œufs. Enfin bon, je ne sais pas. Ça peut assez facilement dégénérer. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans les algorithmes parallèles et dans les programmes parallèles en informatique. Alors, c'est ce qu'on appelle la concurrence. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, la concurrence, c'est l'idée qu'il y a plusieurs parties d'un programme qui s'exécutent dans un ordre quelconque. On n'est pas capable, on veut pas savoir dans quel ordre elles s'exécutent. On sait qu'elles sont potentiellement indépendantes, ou potentiellement il y a des dépendances entre elles. Peut-être qu'il faut casser les œufs avant de faire l'omelette. Ça dépend. Mais a priori, c'est des tâches qui sont concurrentes. Et donc, dans le cas particulier où elles peuvent s'exécuter en même temps, donc pas les œufs et l'omelette, mais peut-être les œufs et la vaisselle d'une autre partie de la recette. Là, à ce moment-là, on parle de parallélisme. On dit que les choses s'exécutent réellement simultanément. Donc ça paraît très naturel, comme je disais. Bon, en fait, pas vraiment, parce que l'analogie que vous avez vue dans le cours de calculabilité, c'est qu'un programme ou un algorithme, ça calcule une fonction mathématique, certaine, pas toutes, seulement celles qui sont calculables. Donc l'idée, c'est qu'on a un seul fil d'exécution, et puis au final, on a une valeur produite. Que fait un programme concurrent ? C'est pas clair, en fait. Et ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de l'ordinateur, donc qui va exécuter en parallèle plusieurs opérations, lui, il sait très bien ce qu'il fait. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Les données sont là quand il en a besoin. Il fait une opération, il range les résultats. Et puis, de temps en temps, il y a des communications qui rentrent en jeu. Donc, de temps en temps, les œufs qui ont été préparés, la sauce qui était préparée dans un coin va se retrouver mélangée avec le plat principal. Lui, il fait ce qu'on lui dit, de toute façon. Donc, si vous posez la question à un ingénieur qui construit l'ordinateur, à un architecte d'ordinateur, il va vous dire, je sais faire un ordinateur parallèle. À la limite, c'est juste un problème de comment le faire plus rapide, comment optimiser mon système. Mais il ne se pose pas trop de questions. Par contre, si vous posez la question en tant que cuisinier, là, c'est à vous de poser plein de nouvelles questions qui n'existaient pas avant. Si vous avez oublié une contrainte, donc si vous avez oublié qu'il fallait casser les œufs avant de faire l'omelette, vous pouvez vous retrouver avec des œufs pas cassés dans la poêle, par exemple. Donc là, c'est une erreur de programmation qui, malheureusement, n'est pas facile à détecter. Parce que peut-être que très souvent, les gens à qui vous allez faire ça vont être malins et vont se dire oui, la recette n'est pas très claire, elle ne disait pas dans quel ordre il fallait casser les œufs et les mettre à cuire, mais il est bien évident que je vais faire ça dans cet ordre-là. Ou alors vous avez juste de la chance, et puis la plupart du temps, les choses se font dans cet ordre-là, puis c'est juste, ça se passe comme ça. Et puis de temps en temps, il y aura quelqu'un de malin, ou au contraire de pas très malin, qui va faire les choses dans le désordre. Et donc, ce qui va se passer, c'est que votre programme qui semble marcher, vous avez oublié une contrainte, vous avez oublié que certaines choses doivent avoir lieu dans un certain ordre, et cette contrainte, malheureusement, elle va vous sauter à la figure le jour où, sur une machine que vous ne connaissez pas, chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, votre programme qui semblait marcher, ben, il ne marchera plus. Donc on n'est plus en train de calculer une fonction, on est en train de calculer un ensemble de comportements possibles. On n'est plus capable forcément de définir un unique résultat. Si on donne une entrée donnée, on n'a pas forcément le même résultat à la sortie. Donc ça, c'est quand même très embêtant. Et si on creuse le problème, c'est vraiment très embêtant. Donc l'analogie, c'est qu'on sait construire un télescope beaucoup plus grand, mais malheureusement, le miroir, maintenant, il fait plus ce qu'on veut. Il a des défauts. Alors, ce n'est pas forcément rédhibitoire. On peut envisager de réparer ces défauts du parallélisme, de la concurrence, mais c'est un problème de recherche qui dure quand même depuis un bout de temps, et c'est toujours chaud actuellement. Donc je vais vous donner juste quelques exemples concrètement de ce que c'est que ce parallélisme. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas tellement le temps. Non, je vais passer. Juste vous montrer cette image-là. Une machine, on va dire, un système de calcul à haute performance de nos jours, et bientôt ce que vous aurez dans un téléphone portable, ça ressemble un peu à ça. Donc vous avez au milieu un réseau d'interconnexion. Pensez à un réseau de fils entre des machines. Vous connectez vos machines en réseau dans une salle informatique, sauf que c'est sur la puce, ça tient dans un centimètre carré. Branché sur ce réseau d'interconnexion, vous avez des cœurs de processeurs. Donc c'est des processeurs bien formés, hein, comme le processeur de von Neumann, qui exécutent des instructions les unes à la suite des autres, mais ils sont rassemblés en grappes. Et dans ces grappes, ils vont communiquer par l'intermédiaire d'un réseau un peu simplifié qu'on appelle un bus. Donc ils ont une manière de se parler les uns aux autres, localement. Et puis dans chacun des cœurs de cette grappe, ils ont des caches, donc ils ont des mémoires locales qui vont garder les données les plus fréquemment utilisées, proches des unités de calcul. Et puis en plus, ils vont être capables de faire eux-mêmes plusieurs choses à la fois, en parallèle, sur ces données. Donc assez rapidement, on a une explosion, on n'arrive même plus à concevoir ce qui se passe. Il y a une hiérarchie de niveaux de calcul en parallèle. Il y a énormément d'événements qui ont lieu dans n'importe quel ordre, en parallèle sur la machine. Ça devient très difficile à concevoir, même intellectuellement, ce qui se passe. Encore plus difficile de vérifier qu'un programme fait ce que vous voulez qu'il fasse sur une machine de cette taille. Juste pour vous dire ce que c'est qu'un système sur puce, en plus de cet aspect parallélisme, en plus de cet aspect je vais vouloir faire des choses indépendantes en parallèle, mais en gros de même nature, on peut aussi vouloir faire des choses de nature différente. Donc par exemple sur un téléphone, vous n'avez pas beaucoup de place et vous avez envie d'économiser de l'énergie. Donc il est hors de question de faire communiquer le processeur principal, qui est généralement, c'est pas un processeur Intel, c'est un processeur ARM, c'est un autre jeu d'instructions. Il ne faut pas le faire communiquer via de la filasse sur une plaque en plastique avec le circuit qui s'occupe du réseau sans fil, par exemple. Hein, vous avez envie que ça soit sur la même puce que la partie programme, la partie algorithmique qui gère, par exemple, le signal téléphonique, le signal de votre voix, pardon, à être discuté avec un circuit qui, lui, est spécialisé pour gérer le traitement du signal fréquentiel pour aller émettre les bonnes modulations de fréquence sur le réseau GSM. Donc on va mettre tout ça sur la même puce. Ça évite de consommer de l'énergie pour communiquer d'un bout à l'autre de la machine. Et puis ça permet d'utiliser ces transistors dont on ne sait pas quoi faire. Donc au final, on n'a qu'une seule puce qui fait tout, ça coûte moins cher. Donc ça aussi, ça crée plein de problèmes parce que maintenant, on a une machine qui est hétérogène, comme je le disais au début. On a une partie du circuit qui est plus spécialisé pour faire certains types de calculs, par exemple faire tourner le système d'exploitation de votre machine. Et puis on a une autre partie du circuit qui sait faire que des transformés de Fourier pour fabriquer des fonctions d'onde, enfin de la modulation de fréquence radio, par exemple. Donc en fait, elle ne sait pas forcément faire que ça, mais disons qu'elle fait mieux ça qu'autre chose. Et donc on va essayer de découper son programme, non seulement en tâches parallèles, mais aussi en tâches qui vont être plus ou moins bien exécuté par certains types de circuits logiques. Bon, je passe là-dessus. Combien de temps il me reste là? par rapport aux contraintes de déjeuner? Un quart d'heure, ok. Et interrompez-moi, parce que sinon je parle trop. Donc, je vous ai parlé de calculer plus vite. Je vous ai parlé de système d'exploitation également pour comprendre un petit peu comment on manipule cette machine qui est de plus en plus complexe. Je voulais juste vous donner quelques mots concrets pour comprendre, indépendamment de la vitesse de calcul, indépendamment de ces évolutions architecturales, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation? Comment on contrôle en tant qu'utilisateur ou que programmeur la machine? Donc, à l'origine des temps, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, la notion de programme existait déjà. Elle avait été inventée par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui a été perfectionnée par quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Jacquard, qui a inventé le métier à tisser automatique Jacquard, et qui a donné l'essor de l'industrie du tissage à Lyon en particulier. Donc ça, c'est déjà à gauche, hein, pas à droite, à gauche, c'est déjà un programme et un automate, donc qui est un automate fini, hein, c'est pas une machine à Turing, ça calcule pas n'importe quoi, mais ça sait faire des motifs répétitifs sur du tissu. Et donc, ce que je veux retenir ici, c'est pas l'aspect calcul, c'est l'aspect stockage des données. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perforé avec des trous un carton qui ensuite est déroulé. C'est vraiment un rouleau, sauf que c'est plié en l'occurrence, sur un métier à tisser qui va faire déplacer la navette entre les fils en fonction de la position des trous sur le carton. Donc ça date du XVIIIe siècle. Ça a été repris dans les années 40 et puis jusqu'à la fin des années 60, c'était très populaire. Par ce qu'on appelle des cartes perforées. Enfin, même après les années 60, mais assez rapidement, on a commencé, quand même quand on avait les moyens, à utiliser des bandes magnétiques, c'était quand même nettement mieux. Là, c'est par exemple un programme Fortran, c'est un langage de programmation, qui est codé sur une carte perforée moderne, entre guillemets. D'accord, donc ça, ce principe de carte perforée, il est peut-être plus utilisé de nos jours sur des machines modernes, parce qu'il n'y a pas une densité d'information très élevée. Par contre, ce qu'on a retenu de ce principe, c'est le traitement par lot. C'est-à-dire qu'on n'a pas une machine sur laquelle on va cliquer sur la souris puis on attend qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre. Ce n'est pas du tout l'objectif. On a envie de préparer à l'avance une série de calculs, donc plusieurs programmes qui vont s'enchaîner les uns les autres et qui vont, pendant la nuit, faire le calcul et puis donner le résultat le matin. Hein, donc, c'est quelque chose qui. Donc, même chose pour le métier à tisser. On programme une fois pour toutes le motif et puis on attend qu'il y ait plusieurs mètres de tissu qui sortent. On ne va pas interagir avec la navette pendant qu'elle bouge. Quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le traitement par lot. C'est toujours utilisé sur les centres de calcul. Si vous voulez, par exemple, réserver plusieurs millions d'heures de calcul pour calculer des décimales de pi, enfin, j'espère que c'est pour faire autre chose, vous pouvez dépenser un certain nombre d'euros et demander à l'IDRIS, par exemple, qui a plusieurs machines à Orsay, de faire ça. Et puis on vous dira, vous avez un intervalle de temps d'heure et vous avez tant de machines à votre disposition. Et puis donnez-nous le travail à faire. Donc là, vous donnez un lot. C'est le même principe que ces cartes perforées. Donc ça, c'est pas vraiment un système d'exploitation. C'est un système de traitement par lot. Un autre exemple qui est pas vraiment un système d'exploitation, c'est les systèmes de commandes de contrôle critique. Donc par exemple, tous les systèmes d'avionique depuis la fin des années 80, ils sont complètement électroniques. C'est ce qu'on appelle le fly-by-wire. Donc il n'y a pas un fil, il n'y a pas un câble mécanique entre le poste de pilotage et puis les volets de l'avion ou les injecteurs des moteurs. C'est géré complètement électroniquement avec des petits programmes qui vont détecter la position de l'avion, la vitesse, le vent, etc. Et également actionner des contrôleurs physiques. Donc là, il s'agit vraiment de préserver la sécurité, enfin la sûreté, pardon, plutôt, la sûreté de fonctionnement. Un système d'exploitation, c'est quelque chose de forcément compliqué. Par définition, c'est censé gérer des événements interactifs, des événements, disons, pas forcément toujours complètement prévisibles. Et ça rajoute du logiciel, donc ça rajoute du code. Plus il y a de code, plus il y a des bugs. D'accord ? Donc on peut s'y prendre mieux pour éviter les bugs, en partie, mais on n'arrive jamais à éliminer 100% des bugs. Même les gens qui font des méthodes formelles complètement, quand ils disent qu'ils prouvent leur algorithme, qu'ils prouvent l'implémentation de leur algorithme, qu'ils prouvent les outils qui ont traduit leur algorithme en un code machine, il y a toujours des bugs. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même un humain dans la boucle. La spécification n'était pas bonne, ou l'outil qui a servi à prouver lui-même, il n'était pas prouvé, etc. Donc il y a toujours des bugs dans un programme informatique. Et donc, si on réduit la quantité de code à prouver et à vérifier, c'est toujours mieux. D'accord ? Donc, il y a des systèmes qui sont utilisés de nos jours, qui sont très complexes en termes de nombre de processeurs, de complexité du matériel, mais qui n'ont pas de système d'exploitation parce qu'ils sont dédiés à une tâche, à un ensemble de tâches prédéfinies. Donc en particulier, il y a quelque chose dans lequel la communauté française d'informatique est très, très connue, qui s'appelle les langages de programmation synchrone, qui sont d'ailleurs en partie, qui ont été inventés à l'INRIA, qui permettent de programmer des systèmes très complexes, des systèmes embarqués très complexes, sans faire appel à un système d'exploitation et de les vérifier. Donc ça, on peut se dire, c'est pas suffisant, évidemment, c'est juste des exemples très particuliers de systèmes de calcul. Vous avez forcément déjà vu des systèmes plus interactifs, plus flexibles, sur lesquels vous pouvez choisir quelles applications tournent dessus, etc. Donc dès que vous sortez ce monde un petit peu restreint, vous avez besoin d'un système d'exploitation, operating system en anglais. Donc juste pour vous donner pour vous expliquer en 6 mots ce que c'est qu'un système d'exploitation, enfin 8 en l'occurrence, un système d'exploitation, ça a 3 tâches et 3 principes de fonctionnement. Donc le rôle d'un système d'exploitation, les tâches d'un système d'exploitation, c'est de gérer les ressources, donc c'est de se dire à un moment donné quel programme va utiliser quelle partie de la mémoire, par exemple. Vous avez plein de mémoire, vous avez acheté une machine moderne avec 4 gigaoctets de mémoire, mais il va quand même falloir la diviser à un moment donné entre les différents programmes qui tournent dessus. Ou alors quel programme utilise le réseau, etc. À un moment donné, il n'y a qu'un seul bit sur le réseau qui circule sur un réseau donné, donc il faut savoir à quel programme il appartient. Une autre tâche, c'est la séparation. Vous avez par exemple une vidéo en flash sur votre navigateur web, et puis vous avez votre système de mail à côté avec des informations super confidentielles dans vos messages. Vous n'avez surtout pas envie que le logiciel de vidéo aille récupérer les informations confidentielles de vos messages et puis les envoyer à quelqu'un d'autre sans vous demander la permission. Vous avez envie que les processus, qu'on appelle les processus, c'est-à-dire les programmes et leur environnement mémoire et toutes les données qu'ils manipulent, soient séparés les uns des autres. Vous avez envie que le système d'exploitation garantisse qu'il n'y a pas de communication involontaire entre les programmes. Ce n'est pas forcément facile à faire, puisque ça a l'air d'être pas vraiment compatible avec la manière dont les machines sont faites, puisque la mémoire, c'est un gros paquet de bits complètement uniforme. Donc, il faut gérer ça de manière logique et prouver que ça marche. Et évidemment, une fois que la séparation ne suffit pas, il faut savoir aussi communiquer. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais seulement quand on veut. Et donc il y a 3 principes pour réussir à faire ça. Il y a un principe d'abstraction, un principe de mécanisme de sécurité, de politique de sécurité, et un principe de virtualisation. J'en parle pas, mais c'est les 3 mots-clés qu'on retrouve tout le temps dans le domaine du logiciel ou du système d'exploitation. Donc vous aurez une formation sur le système d'exploitation, je crois, dans... je ne sais plus de quelle durée, mais qui va en gros s'articuler par rapport à ces principes et ces tâches. Donc juste pour terminer la présentation, je voulais vous revenir sur le problème qui m'intéresse le plus à moi personnellement en termes de recherche, qui est comment faire pour calculer plus vite, donc comment faire pour utiliser les transistors dont on dispose, et plus économiquement. Et donc je voudrais terminer sur une note un peu ouverte, voire même pessimiste, parce que le monde devient tellement complexe au niveau des circuits qu'on ne sait plus tellement comment s'y prendre. Donc pour vous montrer que l'informatique est encore, notamment dans le domaine de la construction des ordinateurs, quelque chose de très jeune, qu'on ne comprend pas très bien. Donc comment faire pour calculer plus vite? Donc je vous ai déjà parlé de parallélisme. Donc, j'essaie de prendre des images un peu moins barbantes. Donc le parallélisme, vous avez compris, vous avez des choses indépendantes à faire, mais généralement qui se ressemblent. Donc c'est vous décomposez votre programme en plusieurs tâches indépendantes, vous faites un produit de matrice par bloc, donc chaque bloc va être un sous-produit de matrice exactement identique aux autres, et puis vous allez pouvoir comme ça exécuter chaque produit de matrice bloc à bloc sur un processeur différent, ça marchera bien. Malheureusement, il faut raisonner comme ça, il faut que votre algorithme explicite la manière de découper le calcul en parallèle. Mais il y a 2 autres aspects en plus qui viennent compliquer les choses de plus en plus de nos jours. J'en ai déjà parlé du premier, c'est les problèmes de puissance, notamment de puissance thermique. Même si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes prêt à payer un énorme radiateur, un énorme ventilateur et la facture électrique, à un moment donné, la techno ne suit pas. On n'est pas capable de dissiper plusieurs kilowatts par centimètre carré sur un circuit de silicium. Ils font. Il n'y a juste rien à faire. Donc il va falloir à un moment donné contrôler la densité de puissance thermique que le circuit diffuse. Et c'est vraiment un problème, je suis sérieux. À l'heure actuelle, on pourrait, si on voulait, utiliser les transistors de manière beaucoup plus dense, beaucoup plus efficace, mais ça fondrait le circuit, littéralement. Donc il faut malheureusement concevoir les machines et aussi les programmes, à un moment donné, pour que ça n'arrive pas. Et puis, il y a un problème d'efficacité d'utilisation des transistors. Je vous en avais parlé pour l'exemple du GSM. Si vous ne faites que des transformés de Fourier, c'est peut-être pas la peine d'avoir un processeur qui sait faire absolument tout de manière généraliste. Peut-être qu'il vaut mieux avoir un processeur qui sait moins bien coordonner des tâches complexes comme, par exemple, trier dynamiquement des éléments dans un tableau où on sait jamais trop où sont les, enfin, ou dans une liste, on ne sait jamais trop où sont les éléments, ça ne s'arrête pas de se balader. Si c'est quelque chose de très régulier, où on va juste parcourir des données de gauche à droite, toujours dans le même ordre, et faire toujours la même opération, on peut faire un circuit plus spécialisé qui utilisera moins de transistors, qui chauffera moins et qui ira plus vite. Donc ça, c'est très tentant, et ça a toujours existé, évidemment. Et on peut gagner des facteurs 1000 en densité de calcul ou en puissance thermique en spécialisant. Par contre, encore une fois, ça pose un problème de programmation. Comment on va gérer ça? Et donc là, bon, c'est le parallèle de nouveau avec le télescope, c'est que si on prend un point de vue du scientifique ou du programmeur, il dit, mais c'est quoi cette machine? Moi, je ne voulais pas de parallélisme, ça ne m'intéresse pas, je voulais juste aller plus vite. Je ne voulais pas réfléchir en termes de quel type d'opération je fais, utiliser des unités de calcul différentes. Je veux juste aller plus vite. Malheureusement, on ne sait pas faire. Hein. Le fabricant de télescope, il ne sait pas faire un télescope qui sait à la fois voir dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge. Il faut faire 3 télescopes, et puis en fonction de ce que vous voulez voir, il va falloir utiliser l'un ou l'autre. Et donc, il y a un problème un problème d'hétérogénéité qui entre en jeu. On est confronté en tant que programmeur à une hétérogénéité de plus en plus grande sur la même puce, donc sur votre machine, mais aussi dans l'écosystème. C'est-à-dire que vous avez, quand vous faites votre marché, vous avez vraiment tout et n'importe quoi qui va être spécialisé pour des tâches très diverses et vous ne savez pas forcément quoi faire, vous ne savez pas quels outils utiliser, etc. Un autre aspect, c'est cette fois-ci plutôt lié au coût non récurrent, c'est-à-dire le coût de fabrication non pas d'un système particulier, donc d'un téléphone, mais le coût de conception d'une famille de téléphones, par exemple. Donc quand vous concevez une famille de téléphones, vous avez envie au maximum de réutiliser ce qui marchait dans les téléphones de la génération d'avant. Ça, c'est d'ailleurs vraiment la base qui a conduit au développement rapide de l'informatique, c'est qu'il y a énormément de réutilisation par rapport à d'autres domaines. En tout cas, on arrive vraiment à prendre des programmes qui ont été écrits il y a 30 ans, et puis on les modifie à peine, ou pas du tout, et ça marche toujours. Donc ça va pousser les concepteurs de systèmes, de calcul, à favoriser la programmabilité, la flexibilité, ce qu'on appelle la portabilité des programmes. Donc un programme qui a été écrit pour une certaine machine est toujours portable, est toujours compatible avec une machine plus récente. Malheureusement, les deux sont un peu antinomiques. Hein, entre l'hétérogénéité, la spécialisation et le fait que ça soit portable, on ne voit pas trop comment on va pouvoir relier les deux. Donc, en fait, en pratique, malgré beaucoup de résultats et beaucoup de succès, par exemple, dans les outils qui vont permettre de convertir des langages, de traduire des langages de haut niveau, des langages de programmation abstraits, agréables, en langage machine, de plus en plus, les programmeurs n'arrivent plus à s'abstraire de considérations liées à la cible architecturale qui vise. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé aux performances, si vous voulez aller plus vite, il faut savoir un petit peu, un peu plus que juste est-ce que la complexité, c'est n log n. Il va falloir savoir que, oui, mais là, j'ai 3 algorithmes qui sont tous les deux en n log n, et qui sont même peut-être mes 3 algorithmes sont tous les 3 en 3 n log n plus 4, mais il y en a 2 qui sont beaucoup plus rapides que le premier, par exemple. Et ça, c'est parce que l'algorithmique a été conçu pour justement s'abstraire de ces problèmes. Si vous voulez aller plus vite, vous ne pouvez pas. Donc il faut à un moment donné, il faut casser le thermomètre à un moment donné. Donc juste pour vous donner un exemple concret, toujours la transformée de Fourier. Si vous voulez faire une transformée de Fourier en prenant le code qu'on apprend à l'école, vous prenez ça s'appelle une série de Parseval, je crois, et vous la déroulez sur 32, 64, 128, 262 144 éléments d'un échantillonnage d'un signal. Donc vous avez une grosse boucle qui va parcourir tous les éléments de tableau et qui va faire des convolutions et des multiplications, des additions. Donc c'est pas très difficile à écrire. Ça prend une demi-heure à un programmeur qui a un peu d'habitude. Et vous avez la courbe du bas. Hein, donc vous faites augmenter la taille de votre transformée de Fourier, et vous avez en ordonnée le nombre de milliards d'opérations par seconde effectuées par une machine qui est en l'occurrence très proche de mon portable. À une fréquence un peu plus élevée, c'est une machine, c'est l'équivalent de 2 portables comme le mien. Vous avez 2 processeurs qui ont chacun 2 cœurs à 3 GHz. Donc ça fait 4 fois 3 GHz. Donc si on suppose que la machine est capable d'exécuter disons une opération par, par cycle, fois 3 GHz, donc ça fait 3 opérations par nanoseconde, donc ça fait fois 4, 12 milliards d'opérations par, par seconde. Là, on en est loin, hein. On en est à je ne sais pas combien, une fraction de moins d'un milliard d'opérations par seconde. Pourtant, il existe une manière d'utiliser la machine efficacement, et même d'aller même beaucoup plus vite que 12 milliards d'opérations par seconde, ce qui est un peu contre-intuitif, mais il faut se fatiguer beaucoup. Donc il faut transformer le programme. Depuis votre petit programme qui initialement faisait peut-être 20 lignes de code, il va falloir faire plein de choses très complexes qu'on ne peut pas expliquer sans vraiment très très bien comprendre ce qui se passe dans la machine, arriver à plusieurs milliers de lignes de programme, et là vous allez pouvoir gagner un facteur 30 en performance. Bon, pourquoi c'est plus que 12, si ça vous intéresse, je pourrais répondre à la question après. Mais essentiellement, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, vous n'avez pas le temps, et même si vous savez le faire. Et puis, il y a quand même assez peu de monde dans le monde qui savent faire cette transformation de programme. Et ce facteur 30, là, il va en s'aggravant. Si vous prenez une machine dans 4-5 ans, ça sera bien pire que ça. Donc, on peut essayer de découper justement en les différentes sources de ce gain de performance, mais je n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps. On pourra revenir dessus. Donc, juste pour conclure, pourquoi je suis pessimiste ? Eh ben, en gros, toute l'informatique des systèmes d'exploitation, des outils, on va dire, y compris des compilateurs qui cherchent à traduire les langages de programmation agréables, de haut niveau, en code machine qui va fonctionner sur le processeur, et ben leur but c'était de cacher ça, c'était de se dire on a envie d'idéaliser le programme, on a envie de dire que ça ressemble le plus possible à un algorithme, bon, formel, complètement bien défini, bien précis, mais on a envie de s'abstraire de la machine. Ben malheureusement c'est un échec. De plus en plus, si vous êtes intéressé aux performances, je rajoute ceci, si vous voulez aller plus vite, il faut faire attention à la machine sur laquelle on travaille. Donc on perd cette idéalisation de machine de Turing qui fait ce qu'on lui dit aussi vite qu'elle peut. Il faut savoir ce qu'elle fait, vraiment pas après pas, pour arriver à comprendre comment aller plus vite. En particulier, donc on perd cette notion de portabilité et on perd la notion de portabilité de la performance. C'est-à-dire qu'un même programme qui va peut-être très vite sur une machine donnée, dans 3 ans, sur une autre machine, il n'ira pas vite du tout, parce que l'architecture a changé. Donc... juste quand même quelques raisons d'expérer. Donc ça, ce n'est pas des choses qui font partie de votre formation, mais vous pouvez en apprendre plus si ça vous intéresse. Donc il y a évidemment plein de travaux qui se font dans ce domaine de la compilation. Le compilateur, qui est représenté par ce chevalier ici qui affronte un dragon. Donc l'idée, c'est que la machine, on ne comprend pas ce qu'elle fait, c'est très compliqué. Mais il y a un outil, heureusement, qui vient sauver tout le monde, et en particulier le programmeur, qui est de traduire quelque chose d'abstrait en du code machine. Donc la science de la compilation, c'est quelque chose qui est à cheval vraiment entre la partie purement formelle, mathématique de l'informatique et la partie construction de la machine, parce qu'il faut comprendre comment elle marche. Donc ça, c'est heureusement, on travaille quand même là-dessus. Et puis il y a aussi la notion de virtualisation, de machine virtuelle, qui est l'idée que bon, on n'a pas envie forcément que les compilateurs, enfin que les gens qui travaillent sur ce problème de cacher l'architecture soient... soit au courant de tout ce qui existe dans le monde, on a envie de leur donner une abstraction un peu stable, un standard, en fait, qui permet de modéliser les outils sur lesquels ils travaillent, qui permet, pendant l'exécution du programme, par exemple, de se rendre compte que, en fait, votre pivot dans votre tri, votre quicksort, votre tri rapide, il n'est pas très bon. Peut-être qu'il faudrait passer un autre algorithme qui marchera mieux. Et donc, vous pouvez, comme ça, dynamiquement, vous renseigner sur ce qui se passe dans la machine pour changer d'algorithme, pour changer de manière d'exécuter le programme, etc. Donc ça, c'est des choses très, très rigolotes qui rentrent plus dans le domaine qu'on appelle la virtualisation. Donc je vais terminer, je ne parle pas des Shadok. Je voulais juste donner quelques références supplémentaires qui sont malheureusement toutes en anglais. Donc si vous vous intéressez particulièrement à ces domaines de la performance, de la construction des ordinateurs, des architectures d'ordinateurs, des compilateurs, donc comment faire pour optimiser un programme pour qu'il aille plus vite sur une machine donnée, il y a un réseau de recherche européen qui s'appelle HiPeak, qui contient plein d'informations intéressantes, en particulier pour vous, donc une task force en français, un groupe de travail qui essaie de rassembler des bonnes pratiques. Donc c'est plus orienté universitaire, mais y compris encore une fois premier cycle aussi. Donc il y a, je pense, quand même des choses qui sont exploitables. Et donc en particulier, il y a énormément de liens qui peuvent être intéressants. Et puis il y a aussi, si vous voulez vous documenter plus pour la culture générale, sur pourquoi je suis pessimiste sur l'avenir de la facilité d'appréhender les machines. Donc il y a une vision qui a été écrite par un certain nombre de membres du réseau, qui s'appelle la HiPeak Roadmap, et vous apprendrez un petit peu des choses sur l'avenir des machines, l'avenir des semi-conducteurs et des applications de tout ça. Donc, je vous remercie. Pas eu de questions, donc j'espère qu'il y en a maintenant. Oui.
Vous parlez de pessimisme. Quel problème pourrait
être donc, j'avais écrit quelque chose. Le problème de base, c'est celui-là. C'est que les programmeurs si on prend un point de vue, disons, économique, les programmeurs, plus ils en font dans le moins de temps, mieux c'est. Et plus on peut prendre des gens mal payés pour le faire, mieux c'est. Je prends vraiment juste l'aspect business. Malheureusement, les problèmes sont de plus en plus difficiles. Au départ, l'informatique progressait en donnant des outils de travail de plus en plus agréables, qui donnent de plus en plus les moyens de construire des programmes complexes en peu de temps. Et bien là, on est en train d'aborder une phase de régression. Donc si vous vous intéressez aux performances, en tout cas, il y a une régression. Donc là, on ne peut pas s'empêcher d'être pessimiste, parce que si le domaine de l'informatique des performances continue à être important, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas l'être, il va falloir de plus en plus trouver des gens bien formés, qui coûtent cher, et qui vont avoir une productivité en baisse. Donc si c'est ça vers quoi on va, ça va un petit peu à l'envers de toute l'évolution de la productivité dans le système capitaliste, si on peut dire. Donc maintenant, si on prend un point de vue moins monétaire, malheureusement, l'idée que l'informatique, c'est une science un peu uniforme, où il y a des gens qui s'intéressent plus aux aspects mathématiques et d'autres un peu plus aux problèmes issus du monde physique qu'on utilise pour calculer, celle-là, elle est en train de disparaître complètement. Donc, il y a vraiment plusieurs sous-sciences qui se développent, qui communiquent évidemment fortement. Comme je vous disais, l'exemple de la compilation, on ne peut pas faire de compilation si on ne connaît pas à la fois des choses vraiment très mathématiques et le fonctionnement des machines. Mais c'est un peu comme la chimie et la physique. Donc ça, d'un côté, il faut savoir comment fonctionnent les relations entre atomes au niveau de la mécanique quantique sur les fonctions d'ondes. Et d'un autre côté, il y a tout un corpus de règles, de réactions chimiques, qui ont un lien avec la première partie, mais en fait, on les sépare en pratique quand on travaille. Donc il y a un fractionnement de l'informatique en plusieurs sous-disciplines qui intervient. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas, puisque si vous cherchez à devenir également, pas omniscient en informatique, mais au moins capable de faire quelque chose d'intéressant et de raconter des choses utiles, il va falloir choisir quelque part. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Oui, je pense que cet éclatement est en train de se faire. Si vous parlez à Gilles Dewey, qui s'est déjà produit cet après-midi, vous pouvez lui reposer la question. Donc l'orateur de cet après-midi. D'un point de vue de la partie constructeur de télescope et astronome, il s'est déjà produit. C'est clair. Mais ça continue. Ça se subdivise. Donc il y a plusieurs informatiques. Ça dépend des sous-parties, mais pour certaines, oui. Bon, je pense que c'est pareil dans toutes les sciences. Le cloisonnement est toujours artificiel. Mais on ne peut plus être informaticien et comprendre tout ce qui se passe, des langages formels, des preuves logiques, jusqu'à l'architecture des ordinateurs. C'est pas possible. Oui, je crois qu'il y avait une question par là-bas, juste avant. Oui. Ah, alors... Donc, changement de contexte complet. Est-ce que vous pouvez juste être plus précis sur le type de questions que vous vous posez ? D'accord. Donc, on peut faire une conférence entière là-dessus, je ne suis pas le meilleur spécialiste, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, le fait est qu'il y a par exemple 30 milliards de dollars autour de Linux, bon, au sens large. Donc, d'où vient cet argent ? Pourquoi les gens payent ? Donc, il y a en gros deux grands types de raisons. Il y a d'abord les gens qui veulent un service. Ils ne veulent pas savoir qu'ils ont acheté une machine, ils veulent que tout marche. Donc, ils veulent qu'on leur configure le système, qu'il y ait de la maintenance, qu'il y ait des mises à jour, etc. Donc, généralement, c'est ça la source principale de revenus dans le logiciel libre. Et puis, il y a une deuxième source de revenus, c'est plutôt de la personnalisation. Donc, si par exemple, vous avez un système de paye et de facturation dans une entreprise, vous avez envie de récupérer ce système, parce qu'en gros, ce que vous voulez, c'est 95% du système qu'une autre entreprise avait, mais il va falloir payer pour les 5% supplémentaires qui sont exactement ce que vous voulez. En gros, c'est pour simplifier, je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure réponse, mais c'est comme ça que ça marche. Mais effectivement, une fois que vous avez payé, ce que vous obtenez, ça appartient aussi aux autres. Donc c'est pour ça que ça marche et que c'est moins cher, mais il faut pas être égoïste. Et puis, il faut être un peu moins gourmand quand on est du côté du fournisseur, parce qu'on pourrait vouloir tout fermer et instantanément avoir un bénéfice beaucoup plus élevé, mais à ce moment-là, on casse le jeu. Quoi. Oui ? Je n'ai pas suivi l'ordre, donc je ne sais pas.
C'était juste pour le titre du livre qui est en espagnol, en anglais, encore.
Oui. De toute façon, je mettrai les transparents en ligne quelque part. Par contre, sur ma page web, ça marchera moins bien que pour François, parce qu'il y a d'abord un auteur et académicien bien connu qui s'appelle Albert Cohen, et puis j'ai aussi un collègue qui est prof de maths à Paris 6. Donc, si vous mettez Albert Cohen in real, là, ça marchera. Sinon, je suis en dixième, je ne sais pas trop quoi. Je me bats avec mon collègue Matteux, parce que pour savoir qui c'est qui le premier, ça dépend. Mais le Albert Cohen, le vrai, là, je peux pas lutter. Oui. Il y avait plus de questions tout à l'heure qui ont disparu, donc oui.
Comme vous parlez des ordinateurs de demain, en fait, je voulais savoir par rapport à l'ordinateur quantique, est-ce que des choses un peu plus développées ?
Alors là, bon, là je ne suis vraiment pas spécialiste d'informatique quantique au sens construction de la machine. J'ai quelques vagues notions d'algorithmique quantique, mais vraiment de base. Donc l'ordinateur quantique lui-même, moi je ne mettrai pas du tout sur le même terrain que ce que je racontais, parce que là pour le coup on cherche pas du tout à prolonger la courbe. On cherche à construire une machine dont on ne sait pas encore vraiment si elle est équivalente à une machine de Turing ou pas. C'est un problème ouvert. Donc en particulier on ne sait pas si les problèmes dont on ne connaît pas d'algorithmes polynomiaux et qu'on appelle NP complet, donc pour lesquels s'il en existe un, tout cela devienne résoluble en temps polynomial, on ne sait pas si une machine quantique peut les résoudre en temps polynomial. Donc dans l'échelle de complexité qui a été proposée par François, il y avait un saut au moment de polynomial à exponentiel. En fait, il y a des problèmes intermédiaires qui sont en exponentiel racine de n, par exemple, comme la factorisation des entiers. Ces problèmes-là, ils se résolvent en temps polynomial sur un ordinateur quantique, en théorie, parce que... On en a construit, mais pas des gros. Mais on ne sait pas s'ils sont NP complets ou pas. Donc, ça, c'est peut-être des machines qui ne sont pas des machines de Turing. Donc, on est en train de sortir de ce que je racontais. Simplement, c'est peut-être, on ne sait pas. Maintenant, d'un point de vue physique, est-ce qu'on va réussir à en construire ? La réponse est oui, parce qu'il y en a maintenant. Simplement, ils ont, je ne sais plus combien, 4, 10 qubits maximum. Même pas 10, je ne pense pas. Et les qubits en question restent cohérents pendant quelques microsecondes. Donc, c'est assez difficile à utiliser en pratique. Quoi. Et pour que ça soit vraiment intéressant, il faudrait avoir plusieurs centaines de qubits, peut-être 200, 300, je ne sais pas. Donc est-ce qu'on va y arriver ? J'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que c'est un domaine très intéressant pour les physiciens. Ça leur donne des moyens de tester de la physique. Est-ce que c'est utile pour calculer ? Je ne sais pas. J'espère que oui, mais... voilà, c'est vraiment un autre domaine. C'est une autre informatique. Oui, il y avait une question par ici ? Non. Il y a plusieurs choses sur les machines Apple. Sur l'Apple 2, vous voulez dire, ou sur le Mac Ah oui, non, il y avait le. Il y a peut-être eu un LC. Un LC3, ça m'étonnerait. Un LC3. C'était un Mac ou c'était pas un Mac ? C'est pas un Mac. D'accord. Non, absolument pas. Donc ça devait être un Mac sur 68 000. Non, c'est 90, c'était peut-être un Mac sur PowerPC sur 68 000. D'accord. Non, ça c'est un jeu d'instruction. 68 030, c'est beaucoup plus proche du X4, du processeur Intel. C'est ce qu'on appelle un CISC. Donc il y a des centaines d'instructions différentes. C'est le bazar. Surtout pas enseigner ça. Par contre, là c'est un processeur où je peux vous décrire toutes les instructions sur un transparent. C'est plus pédagogique que le 68 030. Mais c'est les mêmes idées, simplement que c'est plus complexe. Quoi. Donc ça n'a rien à voir. Ça a pris du plomb dans l'aile, oui, tout à fait. Alors malheureusement, la plupart des programmes que vous écrivez continuent à faire cette hypothèse. ce qui fait qu'ils n'accélèrent plus. C'est-à-dire qu'avec le temps, ils restent en gros à la performance qui a été atteinte en 2003-2004, et ils ne progressent plus beaucoup. Enfin, ils progressent encore un petit peu, mais beaucoup moins vite qu'avant. Donc, si vous restez, vous pouvez toujours faire l'hypothèse que vous avez une machine de Von Neumann, mais vous allez utiliser une fraction des transistors qui sont sur la puce. Quoi. Donc, si vous voulez vraiment voir exploiter l'ensemble de la machine, vous ne pouvez plus. Alors, quelque part, il y a évidemment, l'objectif de la recherche dans ce domaine, c'est quand même on cherche à être optimiste quand on est chercheur, forcément. Donc, on voudrait peut-être définir un nouveau modèle qui remplacerait le modèle de Von Neumann, mais qui aurait les mêmes propriétés, donc qui serait portable, qui serait donc durable pour les machines à venir, et facile à comprendre, facile à débugger, déterministe, c'est-à-dire on écrit le programme une fois, on lui donne les mêmes données, on a les mêmes sorties, donc on calcule une fonction. Quand on fait du parallélisme de nos jours, c'est pas trop ce qui se passe, mais il existe quand même des modèles de parallélisme restreints pour lesquels on préserve ces bonnes propriétés. Donc là, il y a aussi une partie du cours qui porte là-dessus. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Comment faire de la concurrence, comment faire du parallélisme qui préserve les bonnes propriétés du monde séquentiel en termes au moins de débugage, par exemple. Et donc, à terme, comment remplacer le modèle de Von Neumann par quelque chose qui passerait mieux à l'échelle sur les générations de processeurs. C'est ouvert. Voilà, alors là, 99% des gens dans le domaine vont vous répondre oui, et donc il ne faut surtout pas montrer autre chose que ça. Moi, je vous le montre à vous. Maintenant, je pense que c'est quand même une erreur à long terme, parce que si on veut à un moment donné se poser des questions de performance, et je pense que tout le monde est confronté à un problème de performance à un moment ou à un autre, ça va être une mauvaise surprise. C'est un petit peu le Père Noël, tout d'un coup, on se rend compte que ça n'existe pas. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut donner comme image aux étudiants non plus. Donc. Là, je ne suis pas assez pédagogue pour savoir si chose simple veut dire cacher la réalité. Donc, on peut peut-être essayer de le faire de manière justement plus ouverte, mais je ne sais pas. Après, c'est.